Donc voilà, la Turquie, c'est fini. Donc ensuite, ça sera la Médecins sans frontières qui va venir faire son droit de parole. La Poste, pour eux, leur travail est fini, donc voilà. Donc on les remercie déjà. Ensuite, ça sera Médecins sans frontières, donc une délégation de 3 filles. La Turquie a oublié son panneau. Voilà. Et puis on va... Donc Médecins sans frontières, on les attend. La Turquie doit venir rechercher son panneau aussi qu'elle l'a oublié. Voilà.
Médecins sans frontières, vous avez la parole. Madame la Présidente, honorable déléguée, Malakal, Soudan du Sud, février 2016. Un camp de déplacés près d'une des 6 bases onusiennes du pays subit une attaque qui tue 25 personnes, dont 2 de nos collaborateurs, blesse 120 autres et détruit un camp dans sa quasi-totalité. L'un de nos collègues a été délibérément assassiné alors qu'il prodiguait des soins à une victime. L'ONU rapporte qu'il s'agissait de combattants portant l'uniforme gouvernemental. Si tel est le cas, nous parlons ici d'un crime de guerre. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation d'urgence. Notre présence sur le terrain ne fait que placer un pansement sur une plaie ouverte et béante qui nécessiterait suture et opération. En tant qu'ONG présente en terre de conflits armés, nous nous trouvons premièrement au spectacle de la violence extrême qui règne notamment au Proche-Orient, mais également en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, nous dénonçons le manque d'action de la part des acteurs internationaux lorsqu'il s'agit de respect du droit de la guerre, de considération de la multiplicité d'acteurs que ces conflits subissent, ou encore d'éducation de ces parties quant aux lois qui régissent les conflits armés depuis les conventions de Genève. Comment peut-on attendre de ces acteurs non étatiques qui n'ont pas été formés au DIH de les respecter si les États eux-mêmes n'en donnent pas l'exemple? Voilà pourquoi nous soutenons activement l'appel de Genève et son action en faveur de la formation et l'éducation des groupes armés. En les aidant à appliquer et comprendre les règles qui régissent les conflits armés, nous ouvrons une porte afin de nous permettre d'agir plus librement et avec plus d'efficacité sur les territoires gravement touchés. Nous retrouverons l'accès à des régions reculées auxquelles nous avons dû renoncer à cause des risques courus par nos collaborateurs. Nous pourrons également assurer une circulation plus libre entre zones de conflit sans souffrir de la rivalité entre parties concernées et ainsi concentrer nos efforts sur la cible principale de nos actions, l'aide aux civils.
Chère Présidente, honorable déléguée, contrairement à MSF qui a la possibilité de siéger à cette Assemblée et de s'exprimer devant vous aujourd'hui afin de faire valoir ses idéaux, des groupes beaucoup plus actifs sur le terrain n'en ont pas encore l'opportunité. Nous pourrions citer ici un nombre infini de groupes armés, associations, organisations, mais nous ne retiendrons que l'essentiel. Il faut cesser d'ignorer les combattants non étatiques et leur impact dans les conflits. Reconnaître les groupes armés, c'est permettre une application plus exacte du DIH, qui empêcherait des crimes de guerre, tels que des prises d'otages, ainsi que des manquements aux règles de la part des gouvernements qui ne reconnaissent pas le statut de combattant de ces mêmes groupes armés. En tant qu'organisation présente sur le terrain, cela contribuera à renforcer notre sécurité en terre de conflit afin, encore une fois, de concentrer nos efforts sur la population dans le besoin. De notre point de vue, un changement dans le DIH même est en ce moment inenvisageable. Dans un climat aussi instable, où les règles sont déjà si peu respectées, le remanier reviendrait à risquer sa disparition. L'urgence de la situation mondiale actuelle ne nous permet pas de nous attarder sur une réécriture du DIH, dont la ratification resterait incertaine, due au temps qu'elle prendrait, ainsi qu'aux États ne voulant pas d'une charte plus restrictive. En revanche, nous pensons qu'un renforcement dans sa mise en œuvre est indispensable, à cause de nombreux manquements aux règles de la part des États, mais également car le terme de « combattant » reste trop flou. 250 000, c'est le nombre de victimes des bombardements atomiques sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki, qui, malgré les dires des États-Unis, ne sont pas conformes au DIH actuel. En effet, si l'on observe l'article 51.5 du protocole 1, on peut voir que les attaques sans discrimination sont interdites. Et par sans discrimination, on entend des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé. Or, ceci n'est qu'une des catégories dans lesquelles le cas d'Hiroshima et de Nagasaki s'inscrit, en opposition avec ce qu'affirment les États-Unis.
Plus récemment, Kunduz, seul établissement de son genre dans le nord de l'Afghanistan, un hôpital qui prodiguait des soins d'urgence, notamment en traumatologie. Lors de cet attentat, au moins 42 personnes ont été tuées, dont 14 de nos collaborateurs. Notre bâtiment a été terriblement endommagé, le rendant inutilisable pour notre organisation et privant la population locale de leur seul accès à des soins d'urgence. N'était-ce réellement qu'un accident? Nous avons ici des preuves qui vont clairement à l'encontre des dires américains. Nos équipes sur place avaient déjà transmis les coordonnées GPS de notre établissement à toutes les parties au conflit, et bien qu'ils aient répété l'information après qu'ils aient été touchés par les premiers tirs, les bombardements aériens ont continué, causant encore davantage de dommages. Cela n'est qu'un exemple nous touchant directement, mais les cas de bombardements sur civils ne manquent pas. Il suffirait d'ouvrir un journal et de lire les nouvelles sur la Syrie. Levez votre doigt, pointez-le au hasard sur la feuille de papier et lisez. Vous ne trouverez que des excuses et des dommages collatéraux, mais nous parlons bien ici de vies humaines perdues aux bombes et aux tirs aériens. Que de chiffres sur les rapports des armées américaines, françaises, russes, de nombres pour parler de centaines de milliers de vies brisées. Pour conclure, la résolution suisse nous paraît plus que raisonnable, bien que nous pensions que quelques changements soient à pourvoir, notamment dans la définition des sanctions, qui reste trop floue pour être applicable. En revanche, nous trouvons l'idée d'une conférence des parties essentielle au bon déroulement d'un renforcement du DIH. Et en effet, elle constitue un moyen de débloquer la situation mondiale lorsqu'il s'agit de conflits armés non internationaux. Nous terminerons par cette citation de notre présidente internationale, Dr. Joanne Liu. Le Conseil de sécurité des Nations Unies et toutes les puissances impliquées dans la région doivent en faire davantage. L'enjeu est de sauver des vies. Merci.
Merci pour cette intervention et merci d'avoir respecté le temps qui vous était imparti à la seconde près. Les États-Unis d'Amérique ont demandé un droit de réplique, je vous demanderai de le justifier.
Madame la Présidente, honorable délégué, chère délégation de Médecins sans frontières, tout d'abord, la délégation de Médecins sans frontières a condamné les attaques d'Hiroshima et de Nagasaki en les citant comme non conformes au DIH et ensuite a cité l'accident de l'hôpital de Kunduz.
Délégation des États-Unis d'Amérique, vous avez 2 minutes.
Tout d'abord, je souhaite préciser que nous avons déjà parlé d'Hiroshima et de Nagasaki. Malheureusement pour vous, Hiroshima et Nagasaki étaient conformes au DIH de l'époque, qui était alors très vague. Il était conforme au DIH d'attaquer des zones militarisées en cas de légitime défense, et c'était le cas à cette époque. De plus, nous avons mis en garde le gouvernement japonais, qui n'a pas pris au sérieux nos mises en garde. De plus, concernant Kunduz, nous avons déjà répondu à cette question lors de nos droits de parole. Il s'agissait en effet d'un accident et une enquête a été menée par le gouvernement américain. Et donc, voilà. Donc c'était une erreur humaine et il n'y avait absolument pas de visée politique dans cet accident. Merci.
Merci beaucoup, délégation des États-Unis. Délégation de Médecins sans frontières, votre droit de parole a suscité un point d'information. Souhaitez-vous y répondre?
C'est assez étonnant de vous voir...
Monsieur le Président, honorable délégué, oui, nous le souhaitons.
Très bien. Alors, Israël, vous pouvez poser votre question.
Madame la Présidente, très chère délégation de Médecins sans frontières, vous vous désignez comme apolitique, ce qui est très noble. Mais vous semblez pourtant soutenir une organisation terroriste, le Hamas. Ainsi, dans un de ses rapports, Médecins sans frontières a blanchi des attaques et crimes de guerre du Hamas contre Israël. Vous avez notamment qualifié les tirs de roquettes contre des civils israéliens d'attaques de résistance et la réponse israélienne du terrorisme. Vous semblez ignorer les crimes de guerre du Hamas, le ciblage des civils israéliens et l'utilisation des Palestiniens comme boucliers humains. Est-ce votre définition d'une organisation apolitique ou une démonstration du non-respect de votre principe d'impartialité et de neutralité?
Merci. Délégation de Médecins sans frontières, vous pouvez répondre.
Madame la Présidente, chère délégation d'Israël, si vous lisez attentivement le rapport qui a été fait sur ce blanchiment d'attaque du Hamas, vous pourrez constater qu'il n'y a rien à proprement parler qui dise que nous blanchissons et que tout est contenu dans le titre. Et de plus, notre organisation vise à sauver des vies, qu'elles appartiennent à des combattants légaux ou bien illégaux, faisant partie de tel ou tel pays. Pour notre organisation, cela a peu de conséquences lorsqu'il s'agit de vies humaines à sauver. Merci.
Merci beaucoup. Délégation de Médecins sans frontières.